Radio Prague, les informations.
La République tchèque n'est pas d'accord avec son quota d'émissions de dioxyde de carbone. Le procès contre l'eurodéputé Vladimir Železny a commencé en l'absence de l'accusé. Manifestation des éleveurs de porc tchèques. La République tchèque obtiendra pour la période de 2008 à 2015 moins de permis d'émission de dioxyde de carbone, CO2, qu'elle n'a demandé à la Commission européenne. La Tchéquie a demandé à Bruxelles les permis pour 102 millions de tonnes d'émissions, mais la Commission européenne ne veut lui tolérer que 86,8 millions par an, ce qui est de 14,8% de moins. Le ministre de l'Industrie et du Commerce tchèque, Martin Ziman, n'exclut pas que la Tchéquie pourrait porter plainte contre cette décision de la Commission européenne. Le procès contre l'eurodéputé Vladimir Železny a commencé ce lundi devant le tribunal municipal de Prague. Vladimir Železny, ancien directeur de la chaîne de télévision privée Nova, était absent. Il s'est excusé par les activités urgentes au sein du Parlement européen. Le nom de Vladimir Železny figure dans 3 affaires pénales et son immunité parlementaire a été levée par le Parlement européen. 200 d'éleveurs de porc ont participé dans la matinée de ce lundi à une manifestation au passage frontière tchéco-autrichien de Dolní Dvořiště. La manifestation a eu pour objectif d'attirer l'attention sur la situation des producteurs tchèques de la viande de porc. Ces derniers se déclarent lésés par les importations croissantes de la viande de porc par les chaînes de grands magasins et les prix d'achat à la production trop bas. La police tchèque a contrôlé la semaine dernière quelque 69 000 chauffeurs et enregistré quelque 11 500 infractions au code de la route. Chaque 6e chauffeur contrôlé a donc été sanctionné. L'infraction la plus fréquente a été le dépassement de la vitesse. La commission gouvernementale pour les affaires de la communauté rom cherche à empêcher le vice-premier ministre Jiří Čunek d'élaborer la nouvelle conception de l'intégration des Roms. Une déclaration de la vice-présidente de la commission Monika Mihaličková. Jiří Čunek a évoqué sa conception de l'intégration des Roms lors de sa visite dans les villes de Most et de Litvinov où il s'est rendu dans les quartiers habités par des Roms. Un hommage a été rendu ce lundi à Londres par l'ancien président tchèque Václav Havel et le président de la chambre basse du Parlement britannique Michael Martin au graveur tchèque Václav Holar. La cérémonie a eu lieu dans le cadre de la série des manifestations organisées à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance et du 330e anniversaire de la mort du graveur tchèque qui avait vécu et travaillé pendant une grande partie de sa vie en Angleterre. Météo. Ce mardi, fête de toutes les ditas selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera clair et les températures de Jirne varieront entre 12 et 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées de Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le 50e anniversaire de la signature du traité de Rome sera le premier thème de notre tour d'horizon de l'actualité tchèque. Une occasion de vous dire que la République tchèque s'est jointe à la déclaration de Berlin et de vous faire écouter un entretien avec le président de la Fondation Robert Schuman de Paris. Jiří Paroubek a été réélu président du Parti social-démocrate. Nous vous offrirons des détails sur cette élection et sur le congrès de ce premier parti de gauche actuellement dans l'opposition. Suite à Prague du Fébiofest, le festival de films, de télévision et de vidéos, pas comme les autres, qui offre plus de 270 projections. Nous céderons la parole à Otar Yoseliani, réalisateur français d'origine géorgienne, l'un de ses invités de marque. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont trouvé un consensus en ce qui concerne la déclaration de Berlin, malgré certains points de discorde en rapport avec le traité constitutionnel. Sur l'initiative de la Grande-Bretagne, de la Pologne et de la République tchèque, ce point n'y a finalement pas été mentionné. La République tchèque était représentée notamment par le président Václav Klaus, qui a mis en doute l'utilité de la déclaration en question, dénonçant également le fait qu'un débat n'avait pas précédé sa signature, ce qui serait d'après lui un exemple classique du déficit démocratique. À l'occasion de cet important anniversaire, Prague accueillait récemment une conférence internationale, histoire de dresser des bilans et de s'interroger sur l'Europe de demain. Écoutons Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman de Paris.
C'est 50 ans de l'Europe des traités, qui en fait a commencé en 1950 avec la déclaration de Robert Schuman et la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc 50 ans, c'est le moment aussi de faire un bilan avant de regarder vers l'avenir. Et si on compare les deux situations dans les années 1950 et en ce début du XXIe siècle, je crois qu'on peut être fier de ce que l'Europe a fait. Non seulement elle s'est réconciliée, mais elle était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale divisée, ruinée, et aujourd'hui elle est réunifiée. Et sur le plan économique, elle constitue la première puissance économique du monde, avec un produit intérieur brut de 1300 milliards de dollars. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, le regard que nous portons sur le passé récent doit être très positif. Ça ne veut pas dire pour autant que dans ce monde qui a changé, il n'y a pas de nouveaux défis, d'essayer de voir quelle peut être la continuité de l'Europe, quelle est la pertinence du choix européen. Pour moi, il est clair que l'idée des pères fondateurs de l'Europe reste la bonne, une coopération toujours plus étroite entre des nations dont les identités sont respectées, mais qui, pour exercer leur souveraineté dans un monde plus compétitif, différent, multipolaire, où il y a de nouvelles puissances qui arrivent et qui accèdent au développement, il faut mettre en commun un certain nombre des attributs de la souveraineté dans toute une série de domaines. On l'a vu en matière économique, ça marche, le grand marché intérieur, unique. Maintenant, c'est en matière de sécurité, de défense, en matière de gestion de l'énergie, en matière d'immigration. Voilà quels sont les nouveaux défis. Et si nous voulons être à la hauteur de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, il faut savoir être un peu grand, être un peu au-dessus des problèmes du quotidien. Pour résoudre les problèmes de nos citoyens dans les années qui viennent, il n'y a pas d'autre alternative qu'une intégration toujours plus forte de l'Union européenne. Et dès l'origine, la communauté européenne était un projet politique, puisque je vous rappelle que dès 1950, dans la déclaration du 9 mai 1950, on dit l'Europe ne se fera pas en une seule fois, en un jour. Il faut créer des solidarités de fait, très concrètes, très économiques, pour aboutir à une fédération européenne, où bien sûr tous les États continuent à exister, mais où ils mettent en commun ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls.
L'Europe hier et aujourd'hui, avec un regard de l'ex-président Václav Havel, sera également le thème de notre rubrique « Miroir de la société » que nous diffuserons le jeudi 29 mars. Jiří Paroubek a été réélu à la présidence du ČSSD, Parti social-démocrate, lors du congrès qui s'est tenu pendant le week-end écoulé à Brno. Tout le monde s'y attendait car aucun autre candidat ne s'était présenté. Pourtant, Jiří Paroubek a entendu des choses fort déplaisantes et n'a pas réussi à imposer certains de ses objectifs. Alain Slevinski.
Jiří Paroubek, ancien Premier ministre, a donc été réélu à la présidence de la social-démocratie tchèque sans problème. Cependant, les changements dans les statuts du parti qu'il proposait n'ont pas été acceptés en dehors de l'élection directe du président et il a dû faire face à pas mal de critiques. Les sociodémocrates ont reproché à leur président d'être trop autoritaire, de ne pas les consulter avant de prendre des décisions et sa manière de présenter celles-ci en public. Jiří Paroubek a quand même remercié les délégués pour leur voix critique en ajoutant.
Je ne suis certainement pas sans défaut. Pourtant, je serais heureux que mon ami, le député Kala, précise quand je n'ai pas voulu écouter ou discuter de quoi que ce soit au sein du groupe parlementaire des députés.
Les délégués n'ont accepté que deux changements proposés par Jiří Paroubek dans les statuts du parti, l'élection directe du président et la présomption d'innocence pour les membres du parti qui seraient soupçonnés de corruption. Par contre, l'institution de quotas de femmes sur les listes électorales n'est pas passée, ce qui attriste profondément le président de la social-démocratie. Ce dernier compte bien remettre cette question sur le tapis avant le prochain congrès dans 2 ans. Un demi-succès donc pour Jiří Paroubek, qui a quand même réussi à ce que les délégués votent un engagement selon lequel les députés et les sénateurs sociaux-démocrates ne soutiendront pas l'actuel président de la République, Václav Klaus, lors des présidentielles de 2008. En fin de compte, Jiří Paroubek n'a pas réussi à imposer une modernisation promise de la social-démocratie. Pas plus de démocratie avec le refus de l'élection directe des présidents des organisations régionales et départementales. Pas plus de centralisme non plus, car le projet de formation d'une conférence permanente qui déciderait des questions de grande importance entre les congrès n'est pas passé non plus. Une position solide à la tête de la social-démocratie pour Jiří Paroubek, ce n'est pas certain, car seulement 60% des délégués ont voté pour lui.
Le film Jardin en automne du cinéaste géorgien Otario Siliani a été présenté vendredi en ouverture du 14e Festival international du film Febiofest. Otario Siliani est né à Tbilissi et a été formé à l'école de cinéma de Moscou dans les années 50. Le public tchèque connaît son premier long métrage La chute des feuilles, projeté dans les années 60 dans des ciné-clubs, et Adieu plancher des vaches, lauréat du prix Louis de Luc. Interdit de tourner par les autorités soviétiques, Otario Siliani travaille en France depuis plus de 20 ans. On l'écoute lors de la présentation à Prague de son dernier film « Jardin en automne ».
Je vis en Géorgie et en France. Quand je travaille en France parce que le cinéma géorgien n'existe plus. Et j'ai commencé à travailler en France dans les années 80 parce que c'était clairement dit que je ne pourrais plus tourner les films en Union soviétique. D'abord, j'aime pas quand on parle de son passé difficile, là, parce que c'était une période quand même très heureuse. Parce que quand même, ils nous ont donné la possibilité de faire les films qu'on a fait. Qu'il était interdit, c'était tout à fait naturel. Ce qui concerne mes films à moi, ce que je fais, c'était pas possible de faire les films anti-soviétiques. Mais regardez bien le terme, ils n'étaient pas anti-soviétiques, mais ils étaient asoviétiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces d'existence de cette bande de brigands qui s'appelait les bolcheviks. Être honnête et avoir la conscience pure, c'est très important pour les gens qui pratiquent notre métier. On disait que vaut mieux rien faire que faire un rien. Voilà. Alors, quand j'étais interdit partout là, en ex-Union soviétique, ça m'a jamais rendu triste. Là. Alors, quand c'était fini, ils nous ont chassés de cinéma.
À Prague, Otario Siliani a indiqué être avant tout un réalisateur géorgien qui fait des films géorgiens, même si les Français pensent que ce sont des films français. À son arrivée en France au début des années 80, les débuts n'ont pourtant pas été faciles.
Bon, j'ai fait le premier film qui s'appelait « Les favoris de la lune » en France. Et là, j'ai découvert que c'est aussi dur qu'en URSS. Dur parce que quand je suis arrivé à Paris, je suis allé chez Gaumont et ils m'ont dit « Écoutez, il paraît que vous êtes musicien ». Voilà, faites-nous la Traviata. Je leur ai dit que la Traviata, je pouvais faire à Moscou aussi. Je leur ai raconté ce que je voulais faire. Oh, ils ont dit non, encore le cinéma d'auteur. Alors, en arrivant en France, tout le monde attend qu'est-ce que je vais faire. Et voilà, j'ai fait un film qui me fait pas rougir. Voilà, comme ça, j'étais très très bien accueilli en France. Petit à petit, ils sont habitués à moi, là. Et ils disent plus cinéma d'auteur, ils disent cinéma tout court.
Les propos d'Otario Siliani étaient recueillis par Jarka Kisublova. À noter que le réalisateur n'est pas reparti de Prague les mains vides. Le prix Christian pour sa contribution au cinéma mondial lui a été remis par la réalisatrice tchèque Věra Chytilová. Le festival Febiofest se poursuit jusqu'à la fin de la semaine dans la capitale tchèque. C'était donc les faits et événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit avec Guillaume Larguet.
Sport en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette rubrique sportive. En football tout d'abord, la République tchèque s'est logiquement inclinée contre l'Allemagne 2-1 samedi soir à Prague dans un des matchs au sommet des éliminatoires au championnat d'Europe 2008. Nous reviendrons bien entendu sur ce duel très attendu. Mais l'autre temps fort de l'actualité sportive en République tchèque ce week-end a également été la dernière course de la carrière de la désormais légendaire fondeuse Kateřina Neumannová. Les milliers de supporters allemands qui avaient envahi samedi les bars et rues de Prague ont chanté jusque tard dans la nuit. Et il y avait de quoi. En s'imposant 2-1 contre leur adversaire a priori le plus dangereux dans le groupe D, les partenaires de Michael Ballack ont non seulement fait un grand pas vers la qualification pour le prochain Euro Helvéto autrichien, mais ils ont également donné une leçon comme les Tchèques n'en avaient plus subi depuis leur défaite traumatisante en Coupe du Monde contre le Ghana. Que l'on apprécie ou non le football germanique, force est de reconnaître que dans le stade du Sparta, l'Allemagne a sans doute livré un de ses matchs les plus accomplis de ces dernières années, confirmant que sa troisième place obtenue lors de son mondial ne l'avait pas été uniquement grâce à l'euphorie qui avait alors gagné le pays. Sur ce qu'elle a montré samedi avec un jeu étonnamment séduisant, la Mannschaft a prouvé qu'elle était bien de retour parmi les grandes nations du ballon rond. On ne peut pas en dire autant des Tchèques dominés durant l'essentiel de la partie et qui ont singulièrement manqué d'imagination dans la construction du jeu, abusant de longs ballons pour un Jan Koller isolé au milieu de la paire de stoppers allemands. Souvent deuxième dans les duels, fébrile en défense, les joueurs de Karel et Brückner ont longtemps couru dans le vide, notamment en première mi-temps. Encore une fois, ils doivent même une fière chandelle à Petr Cech d'avoir limité les dégâts et de ne pas avoir été humilié. Sans le gardien de Chelsea, l'affaire aurait sans doute été pliée dès la mi-temps, comme le reconnaissait l'arrière latéral gauche Marek Jankulovski à l'issue de la rencontre.
Nous n'avons pas bien joué, surtout en première mi-temps. Les Allemands nous ont surpris avec leurs joueurs en mouvement et leur activité. Ils ont su trouver les espaces et de notre côté, nous ne les avons pas assez pressés. Nous les avons trop laissés jouer et il est logique que nous ayons encaissé ce premier but. En seconde période, nous nous sommes efforcés de revenir, mais après le deuxième but, c'est devenu vraiment difficile. Finalement, nous sommes parvenus à marquer et à réduire le score, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, les Allemands ont été meilleurs que nous.
Mené 1-0 au repos, les Tchèques ont certes bien tenté de repartir sur d'autres bases plus actives en début de seconde mi-temps, mais le doublé de l'attaquant allemand Kevin Kurani à l'heure de jeu a sonné le glas de leurs espoirs. Deux buts concédés suite à de grossières erreurs qui se paient immanquablement cash à ce niveau de la compétition. Marek Jankulovski.
Nous nous étions préparés à leurs grands joueurs et pourtant, c'est vrai, nous avons encaissé deux buts de la tête sur des situations semblables, un corner puis un centre venu d'un joueur libre de marquage. C'est dommage, car avec de telles erreurs, il est difficile de faire un bon résultat contre une équipe comme l'Allemagne, meilleure que nous. Maintenant, il faut oublier et penser au prochain match contre Chypre, mercredi, pour prendre 3 points très importants.
Si elle est inquiétante de par son contenu et confirme que les Tchèques n'ont plus gagné contre une grande équipe depuis leur victoire contre les Pays-Bas à l'Euro 2004, cette défaite ne remet cependant pas encore en cause les chances de qualification tchèques. Après 5 matchs disputés, la Reprezentace conserve sa 2e place, elle aussi qualificative avec 10 points, soit 3 de moins que l'Allemagne, mais toujours devant l'Irlande et la Slovaquie, 2 formations que la République tchèque recevra en outre à Prague. Une légende du sport tchèque a mis un terme à sa carrière ce week-end. Kateřina Neumannová a disputé en effet sa dernière course samedi à Falun en Suède. La Tchèque, sacrée championne du monde du 10 km style libre en février dernier, s'est classée 2e de l'épreuve de poursuite, comptant pour la Coupe du monde de ski de fond. Un résultat qui lui convenait tout à fait, comme l'expliquait Neumannová à sa descente du podium.
Je suis très satisfaite car mes performances n'avaient pas été très bonnes ces 2 dernières semaines. Je n'étais pas en forme et aujourd'hui la piste était mouillée, ce que je n'aime pas beaucoup. Je m'attendais donc plutôt à un résultat moyen. Finalement, j'ai plutôt fait une bonne course. Malheureusement, Marit Bjørgen ne m'a pas offert la victoire sur la fin. Lorsqu'elle est en forme, elle est très difficile à battre dans les arrivées. Elle est plus rapide que moi. Mais ce n'est pas très grave, je me suis bien sentie tout le long du parcours. C'est une deuxième place et j'espère donc maintenant que je ne la conserverai pas pour le restant de ma vie.
Lundi matin, la presse pragoise n'a pas manqué de consacrer plusieurs pages à l'événement et de rendre un dernier hommage à celle qui est surnommée Katka pour son énorme popularité et son palmarès riche entre autres d'un titre olympique, de 2 titres de championne du monde, de 18 victoires en Coupe du Monde ou encore de 6 médailles olympiques. C'est donc le skieur tchèque le plus titré de l'histoire, élu sportif tchèque de l'année 2006, mais aussi l'une des sportives tchèques parmi les plus sympathiques qui s'en est allée.
Et après ce volet sportif, un peu de musique quand même avec Alain Slivinski.
Jan Antonín Pacák fut l'une des vedettes du yéyé tchèque des années 60 du siècle dernier. De 1965 à 1971, il fut le batteur du célèbre groupe de rock tchèque olympique. Ce musicien, qui jouait d'un grand nombre d'instruments et se consacrait ces dernières années plutôt aux arts plastiques et à la peinture, vient de nous quitter à l'âge de 65 ans.
Obcházím tu zem, hraju lidem všem a zůstaň se mnou dál, se mnou hrej. Brouček s ním vráčil, až pak někdo šláp a náš tulák zbyl zase sám. Jedný dívce řek, už jsem dlouho sám, dej mi brouku, nek rád tě mám.
Le chef du groupe olympique, le chanteur et guitariste Peter Janda, se souvient de Jan Pacák ainsi. Je m'en souviens vraiment avec amour. Je n'ai pas joué très longtemps avec lui, mais c'était une des vedettes du groupe dans les années 60. C'était amusant avec lui, c'était un bon copain, et je suis vraiment triste qu'il nous ait quittés. Dans l'encyclopédie du jazz et de la musique pop moderne, on peut lire, ce n'était pas seulement un musicien précis et parfait qui avait le rythme dans la peau, mais aussi un animateur qui savait amuser le public lors des concerts, un comédien. Jan Pacák a interprété certaines chansons du groupe olympique, comme celle-ci par exemple, qui est intitulée « Everybody ». Yeah. Comme nous l'avons dit, Jan Patsak savait jouer un peu de tous les instruments, contrebasse, banjo, harmonica, piano, mais c'est la batterie, ses tambours, comme il disait, qui lui convenait le mieux. Après avoir quitté le groupe olympique, il joua avec des groupes de jazz surtout et se consacra à la peinture qu'il avait étudiée à l'Académie des arts plastiques de Prague. Il collabora d'ailleurs grâce à son talent de peintre à la réalisation des pochettes des trois premiers albums du groupe olympique. Il a présenté ses œuvres dans 60 expositions, illustré 30 livres pour les enfants, réalisé 7 dessins animés et un grand nombre d'affiches de théâtre et de cinéma. Le voici dans une très belle chanson qui a été reprise par bien d'autres interprètes. Elle est intitulée « Bonsoir, Mademoiselle Paris » et elle a été écrite lors du passage du groupe olympique à Paris.
Jsem nejbohatší z bank na cenu. Mám víc než krupiér, stíny sacré.
Merci d'avoir suivi le programme en français de Radio Prague que nous avons préparé aujourd'hui pour vous. Je vous dis au revoir.
Láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.